Michel Agier donc, est anthropologue et il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses champs de recherche privilégiés, c'est précisément la question des frontières, des espaces frontières, des déplacements. Ça fera écho à ce qu'a évoqué, d'un point de vue littéraire, Emmanuel Ruben avant. Il s'intéresse également aux logiques urbaines et donc à la question des migrants. Ces deux derniers livres sont passionnants parce que, comme anthropologue rigoureux, il mêle la théorie avec la recherche de terrain. Donc, il collecte des données, par exemple, sur les espaces de migration en Grèce. C'est le cas de son dernier livre, « La condition cosmopolite », qui est paru à La Découverte en 2013. Et je citerai juste pour mémoire son livre précédent, « Campement urbain d'un refuge ». Du refuge, pardon, naît le ghetto. Michel Agier a choisi d'intituler sa présente conférence « Éloge de Babel, de la question des migrants à une anthropologie des frontières ». Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonsoir. Merci d'être là, nombreux, un dimanche du mois d'août. Nous vivons un moment difficile, un moment trouble. Dans ce moment difficile, la réflexion est nécessaire, le temps de la réflexion est nécessaire, la complexité du monde doit être décrite, puis nous devons essayer de comprendre cette complexité. C'est cette tâche à laquelle, il me semble, les anthropologues du monde contemporain, peuvent contribuer. Pour l'instant, tout nous indique que le monde dans lequel nous vivons est d'une grande confusion. La juriste Mireille Delmas-Marty récemment a écrit « On aurait besoin d'une déclaration d'interdépendance à l'échelle mondiale accompagnée d'un principe de solidarité planétaire et de co-responsabilité. » De ce point de vue, dit-elle, le terrorisme pose la même question que le réchauffement climatique. Qui est le gardien de la Terre face au dérèglement climatique? Et bien sûr, la même question, j'ajoute, concerne la mobilité à l'échelle globale. Ce qui voudrait dire qu'une politique monde est nécessaire, une cosmopolitique. Une cosmopolitique qui se définirait dans et contre la mondialisation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la mondialisation économique ou le capitalisme global. Et je vais vous lire quelques mots du dernier livre de Slavoj Žižek, intitulé « La nouvelle lutte des classes, les vraies causes des réfugiés et du terrorisme », qui, s'inspirant de Peter Sloterdijk, écrit « La mondialisation est ce qui érige une sorte de vaste monde intérieur dont les limites invisibles sont néanmoins quasiment infranchissables de l'extérieur et qui est aujourd'hui habité par 1,5 milliard de gagnants de la mondialisation. Ceux qui en sont exclus, les laissés pour compte, sont cependant 3 fois plus nombreux. Et quelques lignes plus loin, ainsi les attaques terroristes à Paris, aussi bien que l'afflux désormais constant de réfugiés en Europe, sont des rappels transitoires du monde violent qui se trouve à l'extérieur de notre serre. Un monde qui, pour nous qui sommes à l'intérieur, se manifeste principalement à la télévision et dans les reportages traitant de conflits lointains et non comme un élément de notre réalité quotidienne. La serre et l'extérieur de la serre, il y a quelques années, en introduction d'un ouvrage sur les camps de réfugiés dans le monde et le gouvernement humanitaire, que j'avais appelé « Gérer les indésirables », j'avais écrit quelques pages d'un début d'une fiction qui décrivait le monde dans cette serre et les restes du monde, qui est ce que nous ne voyons pas et qui pourtant compose l'autre élément de ce qui est notre planète commune. Il me semble que nous avons aujourd'hui une forme du monde qui est plus horizontale et fragmentaire que verticale et hiérarchique. Ce n'est donc plus tout à fait, à mon sens, une nouvelle lutte des classes, mais une autre lutte ou un autre conflit. Ce qui nous sépare et ce qui nous relie, c'est la frontière entre ces différentes territorialités. La frontière joue dans cette horizontalité du partage territorial du monde la même fonction que la lutte des classes dans la représentation verticale d'un partage hiérarchique du monde. Non pas donc une nouvelle lutte des classes, mais une autre lutte ou un autre conflit. Il s'agit donc de décrire, comprendre ce qu'il se passe à la frontière entre les mondes et les restes du monde, entre la serre et son extérieur, dedans et dehors, ce qui implique une vision complexe de la frontière, pas seulement géopolitique, pas seulement matérielle, une frontière à laquelle je donne plutôt le nom de situation de frontière ou de Babel, et toutes les situations de frontière composent ce monde de Babel qu'il faut, je crois, comprendre. Par situation de frontière, j'appelle les situations où chacun découvre sa relative étrangeté au regard des autres et doit rendre la relation plus familière pour pouvoir la comprendre et s'y mouvoir, s'engager dans la situation, comme disent les analyses de l'anthropologie situationnelle, avoir un sens partagé, même si ce sens partagé suppose le conflit, s'entendre d'une manière ou d'une autre. Mais dans le monde tel qu'il est et dans l'importance que prennent aujourd'hui les lieux frontières, les borderlands, les autres de celui ou celle qui arrive à la frontière sont celles et ceux qui vivent dans les villes, les territoires, les mondes, la serre, où lui-même n'a qu'un accès limité ou pas d'accès du tout, mais ce sont aussi les autres proches, celles et ceux qui vivent avec lui dans les mêmes lieux frontières. Des rapports sociaux se nouent dans les frontières, des rapports de pouvoir s'y forment avec des hiérarchies entre ceux qui sont déjà là et ceux qui sont arrivés plus tard, entre hommes et femmes, et en fonction des relations que les uns et les autres ont avec leur extérieur, le monde lui-même, dans cette serre. Celui de la ville aussi, pour laquelle ils sont, eux, un peuple d'étrangers. Alors après plusieurs années d'enquête dans des situations de frontières, de migrants, de réfugiés, de migrants clandestins, de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, mais vivant dans d'autres régions que la leur, il m'a semblé qu'on pouvait dessiner quelques figures théoriques qui nous permettrait de décrire ces migrants. Je les appelle migrants, je ne les appelle pas réfugiés, je ne les appelle pas non plus immigrés. Ce sont des gens qui sont en migration et qui sont très largement invisibles, et pourtant nombreux, comme j'ai voulu le mentionner avec ces quelques éléments introductifs. Il m'a semblé que trois figures d'hommes ou femmes frontières pouvaient nous aider à comprendre comment est aujourd'hui le monde à la frontière. Ces trois figures, ce sont l'errant, le métèque et le paria. Pour l'errant, qui est africain ou afghan, qui cherche autour de la Méditerranée une entrée vers l'Europe, la frontière, c'est tout le désert du Sahara, c'est toute la mer Méditerranée, ce sont les ports, ce sont la route elle-même, les rues. Ce sont des lieux menaçants, dangereux, à risque, et c'est là qu'ils se retrouvent parfois dans des campements de fortune. C'est une figure ancienne du vagabond, mais qui devient plus fréquente, plus nombreuse, et parfois visible aujourd'hui sous des formes dramatiques. ou qui nous effraie. Il y a toujours une incertitude du parcours, une incertitude de la destination ou du statut selon les pays. On peut être clandestin dans un pays, sans papier, illégal, pour un temps. Et c'est un parcours d'exil qui n'en finit pas. Pour se donner du courage, se sentir sujet d'un mouvement, sujet d'une marche en avant dont il ne contrôle pas les déterminations, les errants et les errantes se disent aventuriers, c'est un terme qu'on entend très souvent, guerriers parfois, refusant la compassion victimaire. Et ils sont parfois excessivement anxieux, manifestant une énergie qui peut aller jusqu'à la violence et qui peut aller jusqu'à l'idée de la possibilité de mourir. Le métèque est une autre figure ancienne bien connue de la cité athénienne et qui s'actualise dans les villes aujourd'hui. Ici et maintenant, c'est le travailleur sans papier, des centaines de milliers en France, des millions aux États-Unis. Je l'ai rencontré dans mes enquêtes à Beyrouth, dans des familles composées de migrants soudanais et de migrantes sri-lankaises qui forment des familles dans les squats, dans des appartements squattés dans les quartiers populaires de Beyrouth. Il y a aussi là les travailleuses avec un contrat de travail, kafala, mais sans existence légale et sans droit en dehors de la relation de travail, qui viennent des Philippines, du Sri Lanka, du Bangladesh ou d'Érythrée. Comme les métèques de la Grèce antique, elles et ils sont bien dans la ville, économiquement utiles, mais n'ont aucune citoyenneté et aucun droit de propriété. Ils sont socialement indésirables. Pour eux, toute la ville est une frontière, et leur place se fait logiquement dans des occupations clandestines. Le squat peut alors devenir le lieu de leur existence ordinaire. Et troisième figure, le paria, aussi une figure très ancienne, bien connue, c'est celui qui vit aujourd'hui dans un camp de réfugiés, de déplacés ou de rétention. Là encore, la longue durée de cet établissement, son caractère de carrefour mondial, à la rencontre d'autres groupes nationaux, linguistiques, de missionnaires humanitaires venus des pays occidentaux, font des camps des lieux de frontières au sens d'une expérience du monde et de l'altérité. S'ils sont à l'écart des villes, ils se dotent eux-mêmes d'urbanité. Je vais en reparler. Ces lieux deviennent des brouillons de ville. Ils attirent vers eux certains des citadins établis qui les voient comme des espaces en friche et des villes en devenir. Bien sûr, si ces figures du paria, du métèque, de l'errant peuvent nous aider à comprendre ce qui caractérise aujourd'hui la condition du migrant, condition non homogène du migrant d'aujourd'hui, elles n'épuisent pas la réalité des sujets. Ceux-ci gardent leur singularité et leur parcours, en fait, les fait alterner ou parfois cumuler l'une ou l'autre de ces conditions de la mobilité précaire aujourd'hui. Quant aux différents lieux, que j'ai appelés lieux frontières, mais en anglais, il existe un terme qui est celui de borderland, de pays de la frontière. Ces différents lieux traversés au cours de ces parcours, le campement, le squat ou le camp, ce sont des installations également instables, en transformation permanente. Conçues comme provisoires, précaires, invisibles, elles représentent aussi une certaine stabilisation dans des situations de frontières. Alors là, maintenant, parmi de nombreux exemples, et certains sont dans ces ouvrages qui ont été mentionnés, je voudrais vous dire quelques mots plus précis sur trois de ces lieux frontières. Un squat qui est nommé Gaza Hospital dans le quartier de Sabra à Beyrouth. Un camp de réfugiés, le camp de Maeba en Zambie. Et les lieux de vie successifs des migrants à Calais. Gaza Hospital, dans le quartier Sabra à Beyrouth, est un squat de 11 étages comptant 127 logements et un peu moins de 500 occupants. Il a été ouvert en 1987 par des femmes palestiniennes fuyant les violences du camp de Shatila voisin. Progressivement, il est devenu le lieu d'habitation d'autres réfugiés, pas palestiniens, mais n'ayant pas droit à une place dans un camp, puis de Libanais pauvres, puis d'Irakiens, de travailleurs migrants syriens, de travailleurs égyptiens, de migrants soudanais, et plus récemment, de migrantes bangladaises travaillant comme employés domestiques, et enfin, à partir de 2012, de très nombreux réfugiés syriens arrivant à Beyrouth. Le deuxième lieu, le camp de Maeba, en Zambie, a été ouvert, lui, en 1971 par le HCR, et il n'a jamais cessé de croître en fonction des moments successifs de la guerre en Angola, mais aussi de l'arrivée d'autres réfugiés congolais, rwandais et ougandais, fuyant d'autres conflits, jusqu'à atteindre 52 000 occupants en 2002. Si les premiers arrivés dans les années 70 ont pu bénéficier de petits lopins de terre et trouver là une forme d'économie partielle et d'autonomie partielle, les suivants n'ont pas eu la même chance et sont restés davantage dépendants de l'aide internationale. Depuis 2002 et la fin du conflit en Angola, le camp s'est progressivement vidé d'une partie des réfugiés angolais, mais les autres sont restés. Et donc, une transformation a eu lieu en, d'une part, la fermeture du camp et l'intégration des habitants dans la ville voisine de Solwezi, et d'autre part, le maintien du camp pour d'autres réfugiés. Dans la ville de Calais et sa région, entre les années 2002 et 2015, de nombreux campements et squats avaient été établis où les migrants trouvaient un refuge provisoire. Des petits regroupements de 20, 50 ou 100 personnes s'établissaient, aidés par diverses associations de Calaisiens, regroupés dans une plateforme commune, la plateforme de services aux migrants, dont les membres venaient quotidiennement visiter, dialoguer, apporter de la nourriture et des vêtements. En avril 2015, l'État et la mairie décidèrent l'ouverture d'un camp de regroupement à 7 km de la ville, organisant le départ forcé des migrants depuis les campements et les squats qu'ils occupaient dans la ville jusque vers ce camp où ils étaient tolérés. Très vite appelé bidonville d'État ou New Jungle, le camp de Calais allait devenir le lieu d'hébergement d'environ 5000 personnes en septembre 2015, puis 7000 en janvier 2016. Des personnes, pour la plupart, qui essayaient de se rendre en Angleterre et d'autres en attente de réponse d'une demande d'asile en France. Les associations locales, trop petites pour la taille du camp, se sont trouvées délogées de fait par des ONG internationales qui ont trouvé là un terrain d'action qui ressemblait à ce qu'elles connaissaient dans les pays du Sud. Puis une autre solidarité s'est organisée à l'échelle européenne cette fois. Des personnes venant de Grande-Bretagne, de Hollande, de Belgique ou d'Allemagne et du reste de la France pour aider à la construction de meilleurs abris et à l'amélioration du quotidien des habitants. Alors, ce que j'ai pu observer dans ces trois lieux, en Zambie, au Liban ou en France, c'est d'abord qu'ils peuvent toujours faire l'objet d'une histoire assez classique de peuplement et de formation d'un lieu, comme aiment bien les ethnologues, dans la tradition des études des monographies villageoises. Des histoires où les premiers arrivants établissent une relation hiérarchique avec les suivants. Observez qu'ils s'y forment des rapports de pouvoir entre anciens et récents, entre hommes et femmes. On y trouve non seulement la question de l'accès aux ressources qui se pose pour toute personne dans n'importe quelle société, mais qui se pose là aussi sous une forme différente, c'est-à-dire la création de ressources propres dans ce lieu-là. Création d'apparence banale, en situation normale, mais qui prend une valeur exceptionnelle dans ce lieu exceptionnel. Quelques lopins de terre dans le camp de Maeba, en Zambie, la construction et l'aménagement d'appartements pour la location par deux familles plus débrouillardes que les autres dans le squat de Gaza Hospital à Beyrouth, l'ouverture d'un restaurant puis d'un autre parmi les baraques du camp bidonville de Calais, etc. On observe une expansion de l'espace avec le temps, triplement de la taille du terrain du camp de Maeba en Zambie, édification de 3 étages supplémentaires à l'immeuble squatté qui en comptait 8 au moment de sa première occupation, développement et début d'aménagement en une sorte de bidonville ou de ville précaire dans la partie sud du camp de la Lande à Calais, celle-là même qui a été détruite par décision de l'État en mars 2016, j'en reviendrai là-dessus. On observe surtout, et cela est général à tous ces lieux, une surreprésentation des fonctions de médiation, c'est-à-dire d'un travail et d'un investissement sur la relation avec l'extérieur du lieu, en raison même de son exceptionnalité ou de son extraterritorialité, qui rend la vie ordinaire plus difficile. Selon les cas, traducteurs, travailleurs sociaux, passeurs sont nombreux. Les aidants, comme on les appelle, et les militants associatifs le sont aussi. Ils sont particulièrement présents à Calais. Traducteurs ou professeurs de français improvisés, avocats, artistes et journalistes venus de plusieurs pays européens ont ainsi échangé quotidiennement avec des personnes en déplacement représentant près d'une 20aine de nationalités. Ces parcours et ces lieux forment ainsi de nouveaux mondes, des mondes contemporains, des mondes émergents. Ils sont d'abord presque incompréhensibles pour ceux qui y arrivent, mais lentement, chacun et chacune doit déployer une sorte de travail culturel et d'imagination sociale pour comprendre où il est, comprendre la place où il vit, comprendre et établir une relation avec les autres qu'il rencontre là. Ces lieux frontières sont aussi des cadres de transformation culturelle des personnes qui y vivent, même si elles pensent n'en être que des passants ou des visiteurs. Ces expériences sont à chaque fois une épreuve de l'altérité que le sociologue autrichien juif exilé aux États-Unis, Alfred Schutz, avait appelé dans les années 40 le labyrinthe de l'étranger. L'étranger arrive dans la nouvelle situation avec une manière de penser qui lui semblait évidente et naturelle, et il doit s'orienter dans ce qu'il appelle un nouveau modèle culturel, langue, mœurs, folklore, mode, etc., le comprendre et l'utiliser. Cela revient à dire, poursuit Alfred Schutz, que pour l'étranger, le modèle culturel du nouveau groupe n'est pas un refuge, mais un pays aventureux, non quelque chose d'entendu, mais un sujet d'investigation à questionner, non un outil pour débrouiller les situations problématiques, mais une situation elle-même problématique et difficile à dominer. De cette épreuve, l'étranger tire au moins 2 traits fondamentaux. D'une part, l'objectivité et l'intelligence du monde, parce qu'il a découvert que, dit Alfred Schutz, la manière de vivre normale est loin d'être aussi assurée qu'il y paraît. Et d'autre part, une loyauté ambiguë. Il ne substitue pas un modèle culturel par un autre, il devient, écrivait Schutz en 1944, un hybride culturel qui vit à la frontière de 2 modèles différents de vie sans savoir auquel des deux il appartient. Dans les cas dont nous parlons aujourd'hui, les choses se sont un peu compliquées et l'épreuve de l'altérité s'est en quelque sorte dédoublée. Compliquée par le caractère particulier des lieux frontières où l'on trouve à plus ou moins haute dose de l'exceptionnalité, de l'extraterritorialité, de l'exclusion. Dédoublée parce que aux établis de la ville auprès desquels ils font figure d'étrangers, s'ajoutent les autres étrangers qui, comme eux, occupent ces lieux frontières et avec lesquels ils doivent aussi s'entendre et organiser leur quotidien. De cette expérience qui serait donc plus frontalière que marginale, chacun tire une certaine distance à l'égard de sa propre identité dite d'origine, une distance à l'égard de la société d'accueil qui incarne la norme et la centralité, et aussi une certaine compréhension de ce qu'est le monde, une certaine compréhension de la globalisation. Alors avec ces situations de frontières, qu'apprenons-nous ? En multipliant les frontières, alors que les moyens de la mobilité se diffusent à toute la planète, la mondialisation est-elle en train de faire disparaître la figure de l'étranger dont la fonction est essentielle à la possibilité de tous les nous, nous nationaux, nous ethniques ou autres, ou au contraire, d'en faire la condition la plus partagée au monde, quelles que soient les identités héritées. Et c'est cette hypothèse qui m'intéresse, la généralisation de l'étranger et de son labyrinthe culturel. Elle nous ramène encore à considérer la centralité de la frontière dans les nouveaux débats sur le monde, l'exercice du monde par la mobilité et la possibilité d'une politique à cette échelle, une politique monde. Comme le titre de cette conférence était « Éloge de Babel », qui est devenu dans ma réflexion plutôt « Comprendre Babel » plutôt qu'en faire l'éloge, je crois qu'il s'agit de vouloir comprendre. Je voulais revenir et vous suggérer cette figure, ce mythe de Babel, pour nous aider à débrouiller un petit peu la confusion générale. Revenir maintenant à ce mythe de Babel peut nous aider à penser le monde contemporain. Il présente deux situations pour l'humanité. À l'origine, dit la légende, l'homogénéité règne parmi les hommes. Une seule langue, une seule race, une seule demeure, c'est l'apologie identitaire, sorte de pureté initiale. Une émotion amoureuse à l'égard de soi-même, du « nous », est entretenue en même temps que la haine des autres. Cette fascination de soi amène l'homme à se prétendre sans limite, aussi fort, aussi grand que Dieu. Une tour est construite, aussi haute que possible, toujours plus haute, pour atteindre le ciel divin. Mais Dieu réplique, il tape dans la fourmilière en quelque sorte, détruit ce monde narcissique et envoie aux hommes la diversité des langues et la dispersion. Ce second temps est souvent présenté comme étant celui de la cacophonie, de l'éclatement et du chaos, auxquels sont associées des représentations négatives. Dans cette optique, on peut avoir une vision très négative de Babel et des conflits liés aux mouvements de population et aux échanges qu'ils nous obligent à penser. Mais c'est oublier qu'une autre interprétation est possible et tout à fait essentielle, qui nous dirait par exemple que nous sommes aujourd'hui dans l'apprentissage, dans la construction d'un monde où des gens circulent dans tous les sens, où il faut accueillir, faire de la place, c'est un état de fait. La cacophonie est ce qui s'entend d'une oreille extérieure, alors qu'au contraire, observé de l'intérieur, il existe une harmonisation possible qui se construit dans la négociation, une certaine politique, une certaine entente entre les personnes qui sont là à partir du moment où elles réussissent à communiquer. On peut donc inverser la lecture traditionnelle du mythe et considérer que finalement, Babel représente la nécessité et l'effort de s'entendre dans un environnement qui change en permanence. Babel, c'est la multiplication des situations de frontières dans un monde où de plus en plus de personnes bougent et qui devient un monde non pas sans frontières, quelle erreur, mais un monde plein de frontières, sociales, culturelles, linguistiques, administratives, religieuses. Ce que forment ces situations de frontières, pour autant qu'on les vive effectivement, et les migrants plus que tous, car ils sont bien obligés de les vivre, C'est un monde cosmopolite, mais dans un sens tout autre que ce qu'on appelle en général cosmopolite. C'est un cosmopolitisme ordinaire, un cosmopolitisme de tous les jours. Je vous renvoie donc à l'ouvrage qui a été mentionné, La condition cosmopolite. Mais maintenant, pour vous proposer un dernier volet de réflexion, je voudrais revenir à Calais. À Calais, nous sommes très loin aujourd'hui de la disparition programmée en avril 2015 avec l'évacuation et le transfert des migrants, qui était une décision de l'État à la demande de la ville, depuis la ville de Calais vers la zone de la Lande, à 7 km du centre-ville. Le lieu s'est transformé et a fini par bien porter son nom de bidonville plutôt que de camp. Il était en train de devenir une sorte de ville, comme la plupart des camps installés dans la durée ailleurs dans le monde, passé de 2000 à 7000 occupants, transformé et de plus en plus approprié par les migrants qui l'habitent. Cette zone était devenue parfaitement publique, visible, exceptionnellement publique, et même certains jours, m'a-t-il semblé, c'était the place to be. Il y avait des journalistes de différents pays qui venaient voir ce lieu et qui le transformaient complètement. Avec ce camp bidonville, les migrants s'inventaient eux-mêmes la ville hospitalière que la France et le gouvernement français leur refusaient. C'était un lieu où une forme paradoxale d'asile était créée et acceptée par certains migrants qui pourtant n'étaient venus jusque-là que pour passer en Grande-Bretagne. C'est contre cela que l'État, finalement, a réagi, contre ce camp qui sortait de l'ombre. D'une part, il a fait construire par une entreprise privée un camp de containers sur une partie de la zone, pour y loger 1500 personnes, avec une fonction sécuritaire explicite, de nombreux surveillants, des grillages, des tourniquets, des contrôles à l'entrée par identification palmaire. D'autre part, il a détruit en mars 2016 la partie sud du camp, celle qui précisément était devenue bidonville, où logeaient à ce moment-là environ 3000 migrants, soit à peu près la moitié de la population totale du camp. Cette destruction visait à éliminer ainsi les marques naissantes d'une socialisation sur ce lieu improbable. Malgré la destruction et donc le redoublement de violence qu'elle a signifié, le camp bidonville jungle, on appellera comme on voudra, de Calais, reste une expérience indélébile pour tous les participants. Il s'est passé là en quelques mois, entre juillet, septembre 2015 et aujourd'hui, ou en tout cas jusqu'en mars 2016, il s'est passé là en quelques mois des phénomènes d'aménagement de l'espace, de socialisation, d'échange avec les habitants et de politisation des occupants, qui mettent en général des années à se développer ailleurs dans le monde, parce que l'isolement est plus grand, et les ressources, bien sûr, bien moins nombreuses, puisque nous étions en Europe, en France, et c'est là qu'un camp était en train de se transformer. À Calais, une relation s'est établie entre, d'une part, des migrants venant de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan, du Pakistan, d'Érythrée ou du Soudan, en fait près d'une vingtaine de pays, et d'autre part, des Européens de tous âges, affiliés à des associations d'obédience chrétienne ou de gauche, ou bien aidants indépendants venus là pour quelques jours grâce à des prises de contact par Internet. Les termes essentiels de l'échange social qui s'est institué sur le lieu ont été la conversation, la traduction, l'apprentissage, la construction. Construction d'abris, construction en dur, de cabanes, apprentissage des langues, apprentissage de la cuisine, apprentissage dans la lecture, traduction, l'importance des personnes venues pour traduire les échanges entre les migrants ou entre les migrants et les intervenants locaux ou extérieurs, et la conversation, les conversations dans les bars, dans les restaurants, les dizaines de lieux qui se sont développés et qui ont été des lieux d'intense socialisation. Ces termes de conversation, apprentissage ou construction, sont les termes qu'on associe en général à la formation d'un monde à la formation d'un monde commun, au sens de la philosophe Hannah Arendt, quand elle parle par exemple de la conversation démocratique contre le totalitarisme. Elle dit, Hannah Arendt, ce monde commun, c'est l'espace intermédiaire qui réunit les humains à partir et au-delà de toute leur singularité. C'est ce dont ont témoigné à Calais l'appel des 800 à l'automne 2015, lancé par des artistes, des intellectuels, et les nombreuses créations et initiatives qu'il a enclenchées, artistiques ou intellectuelles, le film de Yolande Moreau, Nulle part en France, l'ouvrage CD préparé par un autre artiste, Samuel Leckett, qui paraîtra à la rentrée, ou bien les nombreux stages d'étudiants de différentes universités tentant de comprendre ce qui était en train de se passer là et faisant du camp de Calais un laboratoire vivant de la vie sociale, ou encore les relevés minutieux d'architectes pour les diplômes de... Bon, c'est une information très intéressante parce que j'ai posé la question pour clore mon exposé, savoir s'il y avait la 3G ou la 4G. Alors, je vois qu'il n'y a pas la 3G et la 4G, mais vous allez voir, j'ai une surprise pour vous. Ou bien donc les stages d'étudiants en géographie, en anthropologie et autres, pour tenter de comprendre ce qui était en train de se passer à Calais et dans le camp ou le bidonville de Calais. Les relevés minutieux des architectes, ou encore des essais photographiques qui ont eu lieu, de nombreux, ou les poèmes de Laurent Godet. Enfin, tout un ensemble de présences faisant du camp bidonville de Calais une riche source de création et de savoir, en même temps qu'un événement politique. À Calais, il y a quelques jours, le 26 juillet, dans la partie nord du camp, où ont été regroupés ceux qui étaient déjà là, plus ceux qui ont été expulsés de la partie sud, les 3000, ou une partie des 3000, donc dans cette toute petite partie nord du camp, où se retrouvent aujourd'hui environ 7000 personnes, une rixe entre migrants afghans, érythréens et éthiopiens a eu lieu et a fait un mort, tué à l'arme blanche. C'est passé, bien sûr, un peu inaperçu parmi tous les drames de ce mois de juillet. Et je vais vous lire simplement quelques éléments d'une dépêche de l'AFP parue ce jour-là. Citant Christian Salomé, le président de l'Auberge des migrants, une des importantes associations d'aide aux migrants à Calais, il déclare, je cite, « C'est la conséquence de la fermeture des restaurants qui perturbe l'équilibre instable du camp. En effet, la semaine précédente, les autorités avaient, au cours de 3 jours de contrôle dans la jungle, fermé 62 commerces et restaurants informels, 62 commerces informels, et placé 18 de leurs propriétaires en garde à vue. L'objectif annoncé était de freiner la prolifération de ces lieux de vente centraux dans la vie sociale de la jungle, mais qui, selon l'État, entre guillemets, génère des troubles à l'ordre public et entretiennent une économie souterraine. » Et Christian Salomé, le président de l'Auberge des migrants, insistait et s'énervait avec les autorités et les médias en disant « Mais bien sûr, ces gens ont l'habitude de courber le dos et d'aller plus loin. mais cette violence intériorisée risque de ressortir sous une autre forme entre eux. Dès le démantèlement de la partie sud de la jungle en mars, de nombreux militants associatifs avaient averti que la concentration extrême des migrants sur la partie nord, exacerbée par l'augmentation continue de leur nombre, produirait un effet cocotte-minute, débouchant nécessairement sur une explosion. Plusieurs associations ont récemment fait part d'une augmentation des agressions, des vols et de l'insalubrité, avec notamment l'omniprésence des rats. Les tentes sont redevenues la règle, car il est désormais interdit de fournir des cabanons aux migrants. Alors pour conclure, dans le monde créé par la migration et la nouvelle question des frontières, il y a la politisation des migrants. Une petite lumière, une luciole, généralement minimisée dans les commentaires qui mettent plutôt en avant les figures plus attendues de la victime ou du délinquant, de la peur ou de la compassion. Il nous faut sortir de ces représentations compassionnelles et effrayées et exceptionnelles. Pourtant, à Calais, comme à Vintimille, en Turquie ou en Grèce, les migrants bloqués aux frontières et souvent confinés dans des camps tiennent de véritables discours politiques. Ils se politisent contre ce qui apparaît pour eux comme une injustice, une violence, et peut s'énoncer comme un conflit dont les droits de l'homme forment le langage, avec des mots comme liberté, respect, humanité. Ce langage est le langage commun, universel de la politique. Ne pouvant passer légalement la frontière vers la Grande-Bretagne, ne pouvant empêcher la destruction de leurs abris, écoles, restaurants, boutiques de la zone sud du camp, comme je viens de l'évoquer, faisant face chaque jour aux policiers menaçants ou violents, les migrants de Calais ont manifesté, ils ont brandi des pancartes, scandé des slogans, ils ont fait des grèves de la faim et se sont cousus les lèvres, ils ont diffusé des lettres ouvertes dénonçant l'inhumanité des politiques françaises et britanniques, demandant l'ouverture des frontières et le respect des droits de l'homme. À la recherche d'un interlocuteur à leur niveau, ils ont demandé à rencontrer des représentants des Nations Unies plutôt que des représentants de l'État français. Même si les gouvernements des pays concernés ne le reconnaissent pas, et difficilement les médias, continuant de traiter les migrants sur un mode sécuritaire et éventuellement humanitaire, ces derniers expriment une forme de la politique qui place la frontière et la mobilité au centre du conflit et qui donne une idée de ce que peut être, de ce que pourrait être la politique d'un sujet cosmopolite. En témoigne par exemple l'occupation du ferryboat Spirit of Britain dans le port de Calais le 22 janvier 2016 par une quarantaine de migrants. Elle fut bien un geste politique et non l'action de désespérés ou de délinquants manipulés, comme cela a été commenté et comme finalement le feu a été éteint par un procès en justice contre l'acte d'occupation du bateau. Alors, il n'y a pas la 3G, il n'y a pas la 4G, mais quand vous serez reparti dans le monde connecté, je vous invite à taper sur n'importe quel moteur de recherche les mots Dream Calais, Dream Espace Calais. C'est une image, vous verrez, qu'on retrouve dans des films documentaires et sur de nombreuses photos qu'on cherche maintenant du regard sur place. L'inscription « We have a dream » peinte en blanc sur le large flanc caillouteux de l'autoroute qui va vers le port de Calais, tout en bordant le camp bidonville. Anonyme, cela ressemble à un cri du cœur, l'expression d'un rêve d'Angleterre, de quelque chose comme le fameux Eldorado. On peut aussi le lire différemment, y voir une performance artistique sans auteur et un geste politique porté par le sujet de parole qui a émergé de cette situation que j'ai voulu vous décrire plus en détail pendant toute cette année à Calais. C'est une performance artistique parce que les mots sont énormes et sont faits pour être non seulement vus de loin, mais aussi pour être filmés et photographiés, et donc transmis bien au-delà du lieu et pour un public bien plus large que ses occupants ou visiteurs. Les lettres ont la taille et la netteté nécessaires pour être lues et comprises sur n'importe quel écran, et vous le verrez sur vos smartphones dès que vous serez connectés. On peut dire que l'image est performée ou parformée, comme on disait dans l'ancien français. Dans une vue en double dimension, de hauteur et profondeur, les mots sont placés au milieu de trois plans horizontaux superposés qui donnent de bas en haut la profondeur de champ, en bas et plus proche le camp et sa précarité, presque son enfermement dans ce qui semble être un trou au regard de la hauteur du flanc qui le borde. En haut, la route qui mène vers la frontière, mais dont l'accès est bloqué par un grillage de 3 mètres de haut, surélevé de barbelés et rasoirs. C'est au centre de ce dispositif que se place le geste politique, l'intervention artistique, consistant à affirmer entre et contre la barrière et l'enfermement, un autre combat, rendu célèbre par ces mots même de Martin Luther King en 1963 contre le racisme et l'inégalité des droits civiques auxquels étaient confrontés les Noirs américains. Il est rappelé ici comme référence universelle du combat contre l'inégalité. « I have a dream »,« J'ai fait un rêve », »,« J'ai un rêve », »,« Que tous les hommes naissent égaux », dit la phrase initiale. À Calais, la frontière est le lieu où se manifeste cette inégalité, mais une inégalité globalisée, mondialisée, celle qui concerne la mobilité, la mondialisation humaine, la liberté de circuler. Et vous verrez, comme le sujet de la phrase « Oui » de « We have a dream » s'est un peu effacé, on peut penser qu'il est autant un rêve à partager qu'une protestation « Have a dream, faites un rêve, à Calais, entre le camp et le mur, que tous les hommes naissent égaux. » Depuis plus de 20 ans, le philosophe Étienne Balibar défend, je cite, « Il faut démocratiser la frontière. » Il faut démocratiser la frontière si l'on veut étendre la portée et le sens politique véritable de la démocratie elle-même. L'observation des situations de frontières, dont je vous ai un peu parlé, ne peut qu'inciter à prendre au mot littéralement cette proposition. Démocratiser la frontière, c'est-à-dire la politiser. Sur la voie d'un horizon du monde encore incertain, nous franchirions un pas important en reconnaissant l'existence à Calais, Vintimille, Lesbos, Lampedusa et aux frontières en général d'une scène politique qui demande de la reconnaissance et de la négociation, éventuellement de la solidarité, et pas, ou pas seulement, d'une scène humanitaire ou sécuritaire qui appellerait la compassion et l'indignation, ou la peur et le rejet. Un sujet politique se trouve à la frontière que nous ne voyons pas. Quand nous nous demandons aujourd'hui quels sont les lieux de la politique, il y a les places qui peuvent avoir le sens à la fois politique et urbain de la conquête du centre. Et Henri Lefebvre, le philosophe, avait très bien décrit comment la Commune de Paris était une lutte urbaine autant qu'une lutte politique de la périphérie vers le centre, une conquête du centre. Et David Harvey a beaucoup développé cette analyse de la Commune de Paris. Et donc nous cherchons à redéfinir, à comprendre quelle serait une nouvelle définition des espaces de la politique. Il y a la place de la République. La politique, c'est atteindre la centralité, la plus grande visibilité dans la centralité, l'occuper. Mais il y a la frontière, et la frontière est une autre centralité. C'est une centralité, si l'on change de perspective et de contexte, c'est une centralité dans le fonctionnement du monde, le fonctionnement cosmopolite, et les migrants en sont un exemple, mais pas seulement, et donc une possibilité de la cosmopolitique. Il faut bien pouvoir passer les frontières pour que le monde existe. Et ce sont donc des frontières qui chaque jour grondent de hurlements, de jets de pierre, de banderoles, de manifestations, au risque de l'implosion, de l'automutilation, si nous ne la voyons pas, et si nous continuons de croire à la possibilité d'une serre protectrice, que j'évoquais au début, autour de notre monde, croyant pouvoir laisser au loin les restes du monde. Merci.